Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Vous êtes sur France Culture, bienvenue au Bon Réveil. Il est 6h46, bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Dani.
Vous discuterez aujourd'hui avec Ahmet Ünsal, économiste, éditeur, journaliste et politologue turc.
En effet, parce que la Turquie va prendre la présidence du D8, le D8, le plus grand pays musulman du monde réuni à Istanbul. Vous êtes à Athènes, bonjour Ahmet Ünsal.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au téléphone avec nous. Économiste effectivement, ancien chroniqueur à Cumhuriyet, auteur de La Nouvelle Turquie d'Erdogan. Alors le D8, c'est 8 pays, de la Malaisie au Nigeria en passant par le Pakistan. Il représente 15% de la population, une croissance annuelle de 6%. Une entité donc prometteuse dans une économie mondiale plus douce et prometteuse surtout pour une Turquie qui a perdu son image de stabilité dans la région et qui se trouve donc dans la nécessité de réorienter son économie et peut-être sa diplomatie, bras de fer avec l'Union européenne, les États-Unis empoignent des réconciliations avec la Russie d'un côté, et puis de l'autre, multiplication des visites bilatérales, des annonces de partenariat quasiment à la chaîne en Afrique notamment. La diplomatie économique turque a été suractive cette année. Il faut dire que l'équation, je termine là-dessus, est compliquée pour le président Erdogan, en position de force sur le plan institutionnel, mais la guerre de Syrie et le coup d'État l'ont conduit à un virage autoritaire. Les investisseurs sont méfiants, alors que l'enjeu économique est primordial pour l'AKP qui a construit dessus sa popularité sur les classes moyennes. Alors, le président Erdogan va-t-il réussir sa sortie de virage, Ahmet Ünsal? Peut-être une première remarque, c'est que apparemment la Turquie a bien résisté depuis l'été dernier à une sorte d'isolement économique. On avait des chiffres assez terribles d'inflation, de chômage. Aujourd'hui, on en sort un peu. On a l'impression vers 10% de chômage, par exemple.
Oui. La Turquie connaît une reprise économique en termes de croissance. Cette croissance est surtout soutenue par une très grande ouverture des dépenses budgétaires, parce que jusque-là, la Turquie avait une politique budgétaire très, très orthodoxe, avait réduit le déficit budgétaire jusqu'à 1% du PIB. Mais depuis un an, avec évidemment l'effet du coup d'État avorté, mais surtout la campagne référendaire a laissé le gouvernement un peu trop de libéralité. Et deuxième chose, c'est une croissance très soutenue par la consommation. Et troisième facteur, c'est une croissance désormais poussée et tirée aussi vers les exportations, parce que la Turquie a connu un choc de dépréciation de sa monnaie et ce lui a permis de gagner un peu en termes de compétitivité pour ses exportations.
Et on comprend mieux, peut-être de ce point de vue-là, l'activité diplomatique. Ça veut dire que, du point de vue interne, vous avez un peu changé d'avis depuis le début de l'année. Vous disiez dans la revue Mouvement, à l'époque, la confiance est rompue avec la classe moyenne et les investisseurs internationaux. Là, on a une croissance qui s'annonce autour de 5%. Enfin, il y a des chiffres qui diffèrent entre les annonces du gouvernement et puis les investisseurs privés. Mais en tout cas, il y a eu une bonne reprise quand même, alors, de ce point de vue-là.
Les investisseurs étrangers sont toujours inquiets. Il y a deux types d'investisseurs. Ceux qui sont dans des investissements spéculatifs financiers sont intéressés parce que les taux d'intérêt augmentent de plus en plus. Donc là, ils prennent des positions, mais c'est vraiment à court terme. Mais en revanche, malheureusement, les investisseurs institutionnels pour des investissements de long terme sont relativement inquiets parce qu'il n'y a plus de garantie de stabilité juridique en Turquie. Il y a surtout cette perte de garantie juridique inquiète beaucoup les gens parce que le gouvernement arrive à confisquer très facilement les biens des entreprises en disant une relation quelconque avec une organisation terroriste. Et deuxièmement, les classes moyennes sont relativement inquiets parce que les indices de confiance sont vraiment très très bas. En revanche, la pompe a été amorcée essentiellement par des dépenses publiques et surtout des travaux de bâtiments et travaux publics. Les chiffres du budget sont époustouflants en matière de dépenses de travaux publics.
Et les entreprises de travaux publics comptent pour une bonne part dans l'économie turque et également
également dans le clientélisme de l'AKP.
Disons-le aussi comme ça, mais également aussi dans les partenariats économiques qui ont été noués avec certains pays, avec le D8 peut-être aussi. Il y a eu des annonces de partenariats, notamment avec l'Azerbaïdjan, je crois, avec l'Iran également pour une ligne de chemin de fer, entre autres. Plus largement, qu'est-ce que peut apporter ce sommet du D8 dont la Turquie va effectivement prendre la présidence? On a vu, par exemple, le ministre des Affaires étrangères Mevlut Çavuşoğlu insister sur les projets énergétiques.
Alors, D8 a été créé il y a un peu plus de 20 ans, en 96.
Oui, c'est leur anniversaire.
A été mis en place en 97, c'est le 20e anniversaire. Et ça a été inventé, je dirais, par l'ancêtre du parti au pouvoir, le vieux parti islamiste, qui était un an à peu près au gouvernement. Et c'est à ce moment-là, c'était un peu le bras de fer vis-à-vis de l'Union européenne, puisque la Turquie n'était pas encore acceptée comme candidat. Depuis, il faut reconnaître que depuis 20 ans, pas grand-chose a été fait en matière de D8. Les relations de la Turquie sont développées beaucoup avec les pays du Golfe Persique, par exemple, mais à part l'Iran, il n'y a pas de pays du Golfe Persique, des pays pétroliers de la région, membres de cet organisme. Maintenant, effectivement, comme la Turquie de Tayyip Erdogan est un peu en position d'isolement international vis-à-vis de l'Occident, même avec l'Union européenne, mais surtout avec les États-Unis, puisque vous savez que depuis un peu plus d'une semaine, les deux pays ont suspendu de délivrer des visas.
Cette guerre des visas, oui.
C'est énorme. Hein, ce sont deux pays membres de l'OTAN, quand même, je rappelle. Donc, la Turquie essayera, mais ce sera un projet a posteriori qu'un projet a priori, je crois, essaiera peut-être d'utiliser la présidence du D8 pour pouvoir établir des liens, des contacts d'ouverture vers l'Indonésie particulièrement. Avec l'Iran, ils ont des relations déjà particulières au sujet de la Syrie. N'oublions pas que la Turquie et l'Iran font partie avec la Russie du groupe d'Astana.
L'accord d'Astana, en effet.
Oui. L'accord d'Astana, effectivement. Et puis, la Malaisie, avec qui la Turquie garde un contact un peu historique, mais pas plus que ça.
Donc,
En revanche, ce qui est important, je crois, pour la Turquie d'aujourd'hui, c'est de rétablir les relations économiques que la communauté Gulen avait établi en Afrique, en Asie, par le biais de ses écoles, etc., alors qu'aujourd'hui, la tournée africaine, par exemple, de président Tayyip Erdogan, vise surtout à convaincre les États africains à faire interdire les écoles de la communauté Gulen et de rétablir des relations commerciales par d'autres moyens.
C'est ça.
Du coup, c'est plutôt une lutte interne de la Turquie qui est transposée au niveau international.
Ces fameuses écoles Gulen, ces écoles d'élite turque, effectivement, qui ont fermé au Sénégal et en Guinée, avec certains pays qui résistent, vous le disiez, Madagascar, le Kenya, la Tanzanie, Nigeria, Afrique du Sud, d'où les deux tournées ouest et est africaines du président Erdogan ces derniers mois, dernières années. Dernière chose, alors, du côté de l'Union européenne, effectivement, Angela Merkel a réitéré hier son souhait d'arrêter les négociations avec la Turquie. Il y a Sébastien Kurz en Autriche qui est sur la même ligne également, pas tout le monde en Europe, je le précise. Peut-être la chose intéressante, c'est ces trois visites du président Erdogan. Première visite en Union européenne qui s'est faite en Pologne récemment, visite en Serbie, bon, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais qui y prétend d'une certaine manière, et visite en Ukraine également. Qu'est-ce qu'il faut en attendre? Ce sont des nouveaux alliés, de nouveaux leviers peut-être sur l'Union européenne?
Oui, il essaie de constituer des alliés, peut-être pas sur l'Union européenne, mais dans le pourtour de l'Union européenne, peut-être, parce que je crois que la Turquie aussi a compris que l'Union européenne, la porte de l'Union européenne est définitivement fermée. D'ailleurs, Tayyip Erdogan le dit ouvertement en disant « c'est pas nous qui fermerons la porte, mais s'ils le veulent, qu'ils le ferment, nous n'avons plus besoin de l'Union européenne ». Évidemment, c'est un défi un peu exagéré, mais la Turquie effectivement essaie de constituer du coup des liens dans la région, particulièrement la visite de l'Ukraine était importante, mais en même temps la visite de l'Ukraine a recréé des tensions avec la Russie, puisque la Turquie ne reconnaît pas et ouvertement ne reconnaît pas l'annexion de Crimée, et donc du coup alors que les relations avec la Russie commençaient à s'améliorer, cette visite a détérioré les relations. C'est pour dire que la Turquie est en position très difficile pour faire ses ouvertures parce qu'il y a plusieurs handicaps cumulés et peut-être dans ce cas-là, les relations bilatérales locales seront privilégiées. Mais l'apport de l'Union européenne, de toute façon, que ce soit officiel ou non, la porte de l'Union européenne est fermée.
Donc une nécessité claire, diversification, une volonté assez résolue, une certaine ambiguïté effectivement, comme avec la Russie sur la Crimée, alors qu'elle achète ces fameux missiles S-400. Et puis dernière chose à laquelle je renvoie nos auditeurs pour réflexion, Qatar, Birmanie, Somalie, on peut se demander s'il n'y a pas aussi une petite diplomatie de l'avion, d'envoi d'avions humanitaires de la part de la Turquie. En tout cas, merci d'avoir été au téléphone aujourd'hui, Ahmet İlsel. Bonne journée aussi, je le rappelle, économiste et auteur de La Nouvelle Turquie d'Erdogan, édition La Découverte.
Merci beaucoup Xavier Martinet. Vous pouvez, chers auditeurs, retrouver les enjeux internationaux sur les sites franceculture.fr.